Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Emmanuel Mansdincan. Cette dernière série de la saison avant de se retrouver à la rentrée, nous partons en voyage, tourisme, l'heure de la démesure. Demain, nous voguerons sur d'immenses navires de croisière pour regarder de plus près cette course au gigantisme des mers et ses impacts économiques, sociaux, mais aussi environnementaux. Mercredi, nous prendrons de l'altitude pour partir à la conquête de l'Himalaya et pour parler de ce tourisme des sommets qui se démocratise pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Enfin, jeudi, nous prendrons une dose d'adrénaline sur les grands 8 des parcs d'attractions, mais tout de suite, direction les confins du globe, Arctique, Antarctique, l'attraction des pôles.
Une crevasse géante vient de s'ouvrir. Regardez l'île, elle est en train de se détacher. Ça y est.
Le sol est perturbé car le permafrost est exposé au soleil, à la chaleur, au vent. Il y a davantage de pluie. Les étés sont plus chauds et les printemps apparaissent plus tôt. Je ne sais pas ce qui pourrait arrêter tout ça.
Là, vous voyez, ça ressemble aux ailes d'un aigle. Mais si vous regardez une carte, vous vous apercevez, ça n'est plus du tout comme avant parce que ça recule à toute vitesse. Et ce changement nous surprend nous-mêmes. On revient chaque année et parfois, on ne le reconnaît même pas.
Neige éternelle, désert blanc immuable, les banquises gelées ou déambulent des ours polaires, les pôles renvoient un imaginaire peuplé d'étendues de solitude et de paix inaltérable. Mais au nord comme au sud, la fonte des glaces s'accélère. Cette année, le phénomène a déjà commencé avec 3 semaines d'avance sur les prévisions initiales. Au Groenland, la station météorologique de Kanak, au nord-ouest du territoire, dans la localité la plus septentrionale, eh bien cette station a enregistré ce 12 juin une température de 17,3 degrés Celsius. À peine moins que son record absolu établi à 17,6 degrés. Et alors que les glaces fondent dramatiquement, l'accès à ces terres lointaines est facilité pour de nouveaux visiteurs. Alors comment protéger ces territoires extrêmement fragiles du réchauffement climatique d'abord, mais aussi de la menace touristique? L'arrivée du tourisme aux confins du monde marque-t-elle l'avènement d'une ère où plus aucun paysage n'échappe aux selfies publiés sur les réseaux sociaux? Et que reste-t-il donc aux explorateurs dans un monde où l'anthropocentrisme a gagné les plus lointaines parcelles de notre globe? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin, explorateur, écrivain, un certain nombre d'explorations polaires, et notamment en solitaire à votre actif, mais aussi en équipe. Le premier, on s'en souvient, à atteindre le pôle Nord en solitaire, c'était en 1986, on y reviendra. De très, très nombreuses expéditions donc, dans une démarche évidemment scientifique et pédagogique, mais aussi, j'allais dire, pour au fond le simple plaisir de l'aventure. Ces derniers jours, ces dernières semaines, Jean-Louis Etienne, il y a beaucoup d'informations qui nous viennent de l'Arctique, qui sont particulièrement inquiétantes. Selon les scientifiques, cette fonte des glaces, eh bien, elle est encore en train de s'accélérer. On a probablement là une année qui s'annonce peut-être record à nouveau avec des températures de 4,5 degrés au-dessus de la normale. Les paysages que vous avez arpentés sont en train de disparaître, Jean-Louis Etienne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça inspire à votre âme d'explorateur, d'aventurier? Comment vous vivez ce désastre?
Ben, ce désastre, il touche bien sûr, vous venez de l'évoquer, les régions polaires, sans aller si loin. La mer de glace à Chamonix, c'est absolument dramatique. Donc toutes les glaces fondent. Et l'Arctique est particulièrement touché, comme vous l'avez évoqué, parce que l'Arctique change de couleur. C'était une région qui était blanche une grande partie de l'année. Quand je dis blanche, c'est-à-dire réfléchit le rayonnement solaire, on appelle ça l'albédo. C'est la capacité du blanc à réfléchir le soleil. Et bien aujourd'hui, la glace sur l'océan Arctique, donc rappelons que le pôle Nord est au milieu d'un océan, un océan gelé, et la glace qui recouvre cet océan, qu'on appelle la banquise, si vous voulez, elle est en train de fondre. Et donc, à partir du moment où elle disparaît, vous avez de l'eau qui est foncée, vous voyez. Donc, l'eau capte le rayonnement solaire, l'eau foncée, beaucoup plus que la glace qui le réfléchit. Et donc, il y a un phénomène d'emballement. Ça, c'est sur la mer. Donc, la banquise disparaît en surface. On le voit à la fin de l'été tous les ans. Les satellites nous envoient les images. Et aussi, elle s'amenuise en épaisseur. Moi, quand je suis allé au pôle Nord en 86, elle faisait 1,80 m d'épaisseur. Aujourd'hui, on considère qu'elle fait 1,20 m. Vous avez parlé de neige, de glace éternelle. C'est ça qui disparaît.
Donc, si ça change de couleur, comme vous le dites, ça veut dire que ce dérèglement climatique, il est en train de devenir accessible à nos sens. Parce que souvent, quand on parle de dérèglement climatique, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. En tout cas, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne l'entend pas. Quand on est en Arctique, on le voit.
Oh, il y a des choses que l'on voit.
Vous le voyez, vous.
Si vous voulez, j'étais en 86 au pôle Nord, en marchant sur cette banquise-là. Bien sûr, il y avait des endroits où la banquise se casse. Elle travaille en permanence, la banquise. Elle dérive, elle se casse. Donc, tout d'un coup, vous aviez de l'eau libre qui s'ouvre. À ce moment-là, il y a des rideaux de vapeur qui montent parce qu'il fait très froid. Ça regèle, etc. C'était en avril-mai. Et là, je l'ai survolé en ballon en 2010, il n'y a pas très longtemps, en avril, début avril, donc ce qui correspond quand même à la fin de l'hiver. Et là, j'étais surpris de voir des étendues d'eau libre début avril, ce qui est rare. Et donc, effectivement, la banquise qui recouvre le Saint-Arctique fond.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'aventure que vous avez eue, que vous avez vécue en 1986, elle serait plus possible aujourd'hui ?
Si, elle est possible. Alors moi, je l'ai fait en 86. Il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone. J'étais un pionnier, on va dire. Je tirais mon traîneau. Aujourd'hui, ceux qui y vont, c'est des athlètes de haut niveau, un peu comme ceux qui montent au sommet du Mont Blanc.
Vous l'étiez. Athlète de haut niveau, quasi. En tout cas, très préparé physiquement.
Mais surtout, un super campeur. Vous voyez, parce que les choses se compliquent quand on s'arrête. Quand on tire un traîneau, même s'il fait au moins 40... Bon, c'est lourd en traîneau, mais enfin, on n'a pas froid. Les choses se compliquent quand on s'arrête. Parce que tout d'un coup, on n'a pas de chauffage sous la tente, le froid vous tombe dessus, ça complique un peu la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui vont au pôle Nord, ils se préparent comme ceux qui vont au Mont-Blanc, c'est des trailers, c'est des... Vous voyez ? Et donc, ils ont des combinaisons étanches. Et donc, quand une voie d'eau apparaît, ils traversent. Bon, c'est totalement différent. On peut y aller. Mais à la façon dont j'y étais, effectivement, en marchant sur la glace, ça doit être un peu plus compliqué aujourd'hui. Oui.
On reviendra évidemment sur cette première expédition absolument fantastique. Mais pour rester sur la question du dérèglement climatique, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver, Jean-Louis Etienne ? Est-ce que vous pensez qu'on va réussir collectivement à enclencher cette transition écologique ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faudra attendre la contrainte pour qu'enfin s'engage cette transition ?
Mais la transition, si vous voulez, d'abord le réchauffement climatique entraîne le changement. Mais c'est à la base du réchauffement climatique. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. La température moyenne, 1 degré, ça ne se perçoit pas. On ne perçoit pas le réchauffement climatique. 1 degré en un siècle, c'est une valeur moyenne sur l'ensemble de la planète. Ce que l'on perçoit, c'est le temps qui fait et les dérèglements que ça engendre. La solution, si vous voulez, d'abord, c'est une fièvre chronique. La Terre, elle a cette fièvre chronique. Et le médecin que je suis fait souvent le parallèle entre la température du corps normale qui est de 37, et quand on a pris 1 degré, c'est 38. On n'est pas bien à 38. On a ce qu'on appelle une fébricule en médecine. Et en général, si on ne s'en occupe pas, il y a des complications qui arrivent. La Terre, elle en est là aujourd'hui. On est à l'aube des complications. On est en train de changer la circulation de l'eau. Et donc, c'est un phénomène énorme, vous voyez, qui nous arrive. C'est gigantesque. C'est-à-dire que pour arrêter ce réchauffement lent, chronique, il y a une urgence à traiter. Et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre, c'est que le résultat du traitement que l'on va mettre en œuvre dès aujourd'hui, si on était vraiment très très efficace, le résultat ne se verrait que dans 30 ou 40 ans, c'est-à-dire qu'on commencerait par stabiliser le CO2 que l'on envoie dans l'atmosphère, une espèce de neutralité, on appelle ça la neutralité carbone, pour arriver après à descendre doucement. Mais c'est tellement géant que ça demande à chacun d'entre nous d'être efficace. Les problèmes, les gros problèmes que l'on affronte, c'est les pays qui consomment beaucoup de charbon. Il vient là, le problème. Le charbon est l'ennemi numéro un du climat. C'est celui qui émet le plus de gaz carbonique à la combustion. Mais la Chine marche au charbon, l'Inde marche au charbon, l'Allemagne continue, 54% de l'électricité en Allemagne est faite au charbon, la Pologne, 80% de l'électricité polonaise est faite au charbon.
Vous n'êtes pas très optimiste, on ne va pas y arriver.
Non, moi je suis un optimiste né, parce que je sais qu'on a les solutions, si vous voulez, mais je me rends compte que ça touche notre vie de tous les jours. voyez, quand il y a des manifestations pour dire qu'il faut arrêter l'avion, moi je suis arrivé en avion là, hier, on ne peut pas arrêter l'avion. Ce qui peut faire des progrès, c'est les avions. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? La réponse, elle est comportementale. Chacun d'entre nous doit agir en fonction de ça, c'est-à-dire limiter au maximum sa consommation d'énergie, quelle qu'elle soit. Et puis la solution, elle est technologique.
Et chacun doit faire des efforts, chacun doit changer. Et en même temps, on a le sentiment qu'il n'y a pas de changement profond, global. Vous le dites, on commence effectivement à voir directement ce changement climatique. Il y a quelques jours encore, il y a des experts qui ont voté la redéfinition de notre époque et qui ont dit qu'effectivement, on était passé dans une nouvelle ère géologique carrément. C'est-à-dire c'est la Terre qui est en train de se transformer. On a basculé dans l'anthropocène. Donc on sait parfaitement tout ça. Et en même temps, on ne fait pas. En tout cas, on ne fait pas à la hauteur de l'enjeu. Quoi. C'est quoi ? C'est une forme de déni ? Ou est-ce que, non, au fond, on est convaincu tous que c'est trop tard et que donc...
Pas du tout. C'est à mi-chemin entre les deux. Il n'y a ni déni aujourd'hui, il n'y a pas de déni. Et même les personnes politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, j'étais à Clermont-Ferrand il y a deux jours, organisé par la ville de Perpignan, Clermont-Ferrand, pour expliquer ce qu'ils font, comment on peut faire, amener les jeunes sur la scène qui dit... Mais dès que vous entrez dans la réalité, vous voyez, de la transformation, un exemple tout simple qui touche la France, sans aller si loin, on a encore 4 centrales au charbon. On sait que le charbon est l'ennemi numéro 1 du climat, mais fermer ces centrales, c'est un problème social qu'il faut gérer. Vous voyez, donc là, il y a une difficulté. Jaurès a une phrase extraordinaire dans son discours à la jeunesse en 1903. Aller à l'idéal tout en comprenant le réel, c'est ce mariage qu'il faut faire, mais il faut accélérer. Les solutions, on les a, mais elles sont éminemment complexes. Si tout d'un coup la Chine et l'Inde, l'Allemagne et la Pologne, tous les quatre, décidaient d'arrêter le charbon, ça irait beaucoup mieux. Remplacer le charbon par le gaz. Le gaz n'est pas parfait, mais en termes de production énergétique, il est la moitié moins émetteur que le charbon.
J'entends un homme extrêmement confiant en la technique,
oui,
dans le progrès.
Oui.
Vous n'êtes pas, par exemple, un partisan de la décroissance,
mais écoutez,
la frugalité tout azimut.
Mais la frugalité, moi j'ai une vie très frugale. Mais ce sont des termes, c'est comme quand on dit qu'il faut changer de paradigme. Alors on entend ça de temps en temps, on pourrait se dire tous les deux, on va changer de paradigme, mais on sort de Radio France, so what, comment tu t'y prends ? Vous voyez ce que je veux dire ? La réalité est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que ça. Donc, les solutions, elles sont technologiques. Je m'explique. Vous avez, par exemple, on dit que si on passait au renouvelable, le soleil, le vent, etc., ce serait formidable. Il y a eu des projets 100% renouvelables en 2050. Ça ne tient pas la route. Je vous explique juste un exemple. À Paris, le métro et le RER... Pour si on voulait le faire tourner avec des éoliennes, énergie renouvelable parfaite, il faudrait 400 éoliennes de 2 mégawatts. Les 2 mégas, c'est celles qu'on a dans les campagnes, elles sont classiques. Et il faudrait qu'il y ait entre 15 et 20 km/h du vent. Le métro marche bien et tout d'un coup, le vent s'arrête. Mesdames et messieurs, nous vous informons qu'en raison de panne de vent, vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Donc tout d'un coup, il va falloir mettre... C'est-à-dire que quand on met des renouvelables... qu'il faut utiliser, le soleil, le vent, etc., il faut en face une énergie de substitution qui peut être mise en œuvre immédiatement. Donc ce sont les barrages hydroélectriques, c'est le gaz, on tourne le bouton du gaz et on l'a tout de suite. Vous voyez, donc il faut entrer dans la complexité du phénomène énergétique, se rendre compte que nous sommes des gros, gros, gros consommateurs d'énergie sans s'en rendre compte, vous voyez.
Quittons le métro et le RER parisien, si vous le voulez bien, Jean-Louis Etienne, et revenons au pôle. Parce que votre prochaine expédition se fera au pôle, évidemment, et à bord du Polar Pod. Le Polar Pod, c'est un projet de navire vertical dont vous êtes à l'initiative. Il est destiné à l'étude de l'océan austral qui encercle cette Antarctique. Vous nous présentez un petit peu ce Polar Pod, nous dire à quoi est-ce qu'il sert, d'un point de vue scientifique, c'est quoi l'intérêt, comment est-ce qu'il fonctionne aussi. C'est un projet un peu fou. On a l'impression de lire du Jules Verne quand on s'intéresse
Jules Verne,
à ce Polar Pod.
Avec vous, mais pas fou, mais Jules Verne. Et en fait, on va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Là, on a changé de pôle. On était en Arctique. Ouais. Là, on passe en Antarctique, le continent du pôle sud. Et donc, cet immense continent est entouré d'un courant qui fait le tour, le courant circumpolaire antarctique. C'est un immense océan, l'océan austral, qui fait 22 000 km de circonférence. J'invite à ceux qui nous écoutent à prendre le globe, l'enlever des clous et regarder avec le pôle sud devant. On va se rendre compte que l'hémisphère sud est un immense océan. Et toutes les publications sur cet océan austral se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. C'est ça qui a alerté mon attention et je me suis dit, quel type de vaisseau on pourrait construire pour être stable dans cette grosse mer? Là, on parle des 50e hurlants, donc nous parlent les navigateurs tous les 4 ans.
Avec des vagues immenses, des vents terribles.
Il y a du vent, voilà. Et donc, la solution, si vous voulez, un bateau est posé sur la zone de conflit. La zone de conflit, c'est là où le vent et la mer se rencontrent. Ça fait des vagues.
La surface.
La surface, exactement. Donc, si vous voulez... Alors, quand ça, plus ça souffle, plus ça creuse. À un moment donné, quand même, ça charrie pas jusqu'à 100 mètres de profondeur. Donc, si vous avez un grand flotteur qui fait 100 mètres de haut, avec 80 mètres sous la surface, là, on est pris par des eaux stables. Et à la surface, il faut mettre un treillis, quelque chose de transparent aux vagues, de manière à ne pas être impacté. Et donc, on a dessiné, avec un bureau d'études qui est à Lorient, ChipST, le PolarPod. On l'a testé avec des maquettes. On l'a testé sur des bassins à vagues à l'école centrale de Nantes, à Ifremer, à Brest, de manière à arriver à cette forme aujourd'hui extrêmement stable, comme il y a des gens qui vont travailler. On nous a demandé de faire une étude du mal des transports, bien sûr. C'est d'une grande stabilité, ça n'a rien à voir avec un bateau.
Mais il faut que l'auditeur imagine, c'est au fond un très grand bâtiment, très longiligne.
C'est un grand flotteur.
À la verticale, exactement. Avec la majeure partie qui est en fait immergée.
On n'habite pas sous l'eau, hein. On habite dans une cahute qui est à 10 mètres au-dessus de l'eau. Et donc on est émergé, ce n'est pas...
Et alors qu'est-ce qu'on y fera sur ce PolarPod?
Alors on va être entraîné par le courant et le vent, on est autonome en énergie, et les mesures qui sont attendues, d'une part, cet immense océan, revenons au climat, cet immense océan austral est le principal puits de carbone océanique de la planète, dont on ne connaît pas la performance. Il absorbe une grande quantité de CO2, cet océan, par ce qu'on appelle le phytoplancton, la photosynthèse, les herbes planctoniques qui le captent pour se nourrir. Et deuxièmement, une particularité de cet océan, c'est un océan d'eau froide. Et le CO2 se dissout en priorité dans les eaux froides. Donc, c'est en fait le principal puits de carbone océanique, je dis bien de la planète. On ne connaît pas sa performance. Et la circumnavigation que nous allons faire, ça va durer 2 ans, 2 fois ou 4 saisons. Et donc, on va ramener une mesure précise sur le rôle de cet océan dans le captage du CO2.
Départ prévu 2021, si tout
plutôt,
va bien.
Plutôt fin 2022. On va faire des grosses campagnes d'essais, parce qu'avant de partir dans cette grosse mer, on va sérieusement le tester. Il y a cette notion de... Deuxièmement, on va utiliser le fait qu'on a 80 mètres sous l'eau et qu'il y a le silence, on n'a pas de moteur. On va faire un inventaire de la faune par acoustique. Vous voyez, avec des hydrophones. On écoute. Et alors on entend... On écoute, il dit, tiens, une baleine bleue, tiens, un orque, tiens, un éléphant de mer, tiens, un manchot, vous voyez, par acoustique, on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Voilà 2 éléments importants que nous allons ramener.
Permettez-moi une question un peu vulgaire, Jean-Louis Etienne. Comment est-ce qu'on finance ce genre de projet? Parce que c'est évidemment une question essentielle.
C'est plus qu'essentiel et la plus compliquée. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit un peu sur la construction navale, sur l'histoire de la construction navale, où on utilisait beaucoup d'arbres, etc. Mais depuis Magellan, qui est le premier à faire le tour du monde, si vous voulez, depuis Christophe Colomb, ces gens, ils passaient du temps à présenter leurs projets. Pour trouver les mécènes. Christophe Colomb, il était portugais, il est devenu espagnol.
Pour cette raison-là,
ça a toujours existé. Quand on lit Charcot, c'est pareil, mais tout le monde, on passe son temps. Voilà. Et donc, c'est un acharnement, c'est une persévérance qu'il faut avoir. C'est trouver les mots justes pour effectivement éveiller. Je me rends compte, ce qui me surprend, c'est que c'est un projet extraordinaire en termes de communication. C'est un vaisseau communicant. On est comme la station spatiale, si vous voulez, qui tourne autour de la Terre. Nous, on va être en orbite autour de l'Antarctique et on va faire des choses qui sont d'un intérêt pédagogique extraordinaire. Ne serait-ce que, vous voyez, la structure, ça a été le sujet du concours général des sciences de l'ingénieur. Donc tout le monde s'intéresse à ce PolarPod. La difficulté de financement, c'est que j'ai réalisé que la science a du mal à se faire financer. Alors normalement, dans le montage, l'État finance la construction, l'investissement, c'est un navire océanographique, c'est Ifremer qui va être maître d'ouvrage, et moi il me revient de trouver les financements privés pour l'expédition elle-même.
Et vous trouvez que c'est plus difficile aujourd'hui de trouver des financements, justement? Ça fait 30 ans, plus encore, que vous faites des expéditions. C'est plus difficile aujourd'hui?
Ce projet-là est difficile parce que Parce que je mets souvent quelque chose qui est l'intérêt majeur de ce projet, c'est ce que je viens de vous décrire, les intérêts scientifiques. Et donc, les communicants aiment bien qu'il y ait un peu d'aventure, quelque chose, mais c'est une aventure permanente. On va affronter les plus grosses vagues du monde. Pour vous donner une idée, le Bureau Veritas qui valide la structure nous a demandé de pouvoir affronter la vague cinquantennale. C'est une vague de statistiques et elle fait 31 mètres de haut, de creux à crête. Elle arrive toutes les 18 secondes et c'est une tempête de 3 heures.
Donc ça veut dire que, bien qu'évidemment il y a un intérêt scientifique, il faut aussi l'action, et d'une certaine manière donc la dimension aventure, expédition.
Oui, oui.
Finalement, en vous entendant, je retrouve un peu, j'ai en face de moi un ouvrage que vous aviez écrit il y a quelques années, Le Pôle Intérieur menait sa vie comme une aventure, dans lequel vous racontez justement votre voyage du côté des États-Unis pour aller vous faire financer, et les Américains qui vous accueillent vous disent: il faut de l'aventure, action,
oui.
C'est les trois mots clés.
Oui, oui.
Pour se faire financer, c'est ça qu'il faut.
Oui, oui.
Donc on retrouve ça encore aujourd'hui.
Alors écoutez, j'ai trouvé à un moment donné il y a l'histoire de l'aventure de ce bateau, et puis alors là, il faudrait qu'on mette en évidence l'existence du calmar colossal. On a entendu parler du calmar géant.
Là, on est dans Jules Verne, hein.
Oui, on est dans Jules Verne, mais il existe. Il existe le calmar géant. Hein, on est dans Jules Verne, vous avez raison. Mais on a trouvé des morceaux de calmar qui étaient assez gros. Les pêcheurs en ont ramassé. Il y a une étude génétique et on se dit, mais il est différent du géant. Et on l'a baptisé, enfin pas nous, les scientifiques, le calmar colossal. C'est une espèce de géant qui fait 15 mètres, si vous voulez, et qui est inféodé à ces eaux froides de l'Antarctique. Donc on va voir une caméra à 2000 mètres de profondeur, avec un retour, avec une petite LED qui simule le poisson lanterne qu'aime bien le calmar, et peut-être nous allons ramener l'image.
Ah, peut-être. Comment vous est venue, Jean-Louis Etienne, cette passion absolue des pôles là, qu'on entend dans votre voix?
Alors écoutez, moi je suis né à la campagne, dans le Tarn, donc on est loin de la mer, on est loin de la montagne, derrière chez moi il y avait les champs, j'aimais vivre dehors, ça c'est déjà quelque chose qui est... J'aimais vivre dehors. À 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Donc il y a cette notion d'hiver. Je pense que j'aime les déserts, en fait, voyez. Et pas les déserts chauds, je ne suis pas taillé pour ça. Mais j'aime ces déserts froids. C'est puissant, les régions polaires. Vous êtes sur une autre planète, quoi. Sensoriellement, c'est très pauvre. Quand vous êtes sur la banquise, il n'y a pas d'odeur. La couleur, c'est le bleu ou le blanc ou le gris. Il n'y a pas de bruit, à part la glace qui grince. Vous voyez, vous êtes sur une autre planète. Et en fait, ce qui se passe, moi, ça a duré 2 mois, mon histoire au pôle Nord, sans téléphone, sans GPS. C'est une rencontre avec soi. C'est une immense retraite profonde, vous voyez,
ouais.
Avec cet engagement sur un point immatériel qui est cet axe de rotation de la Terre. Et donc, il y a une transformation personnelle. Ça, c'est mon histoire, mais quand j'en parle aux gens qui vont à la station française du Mont-d'Urville en Antarctique, qui ont passé un an d'hivernage, ils se sont rencontrés. Quand il se passe très peu de choses, il y a nos sens qui se rappellent à vous, si vous voulez. Donc on apprend à regarder, et on apprend, et puis on se rend compte que ce temps avec soi, il est précieux, on le découvre, et on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir.
Vous aviez parlé dans une interview d'un pacte profond avec les pôles. Ouais. Chaque image, chaque évocation semblait dire « je t'attends à la plus intime partie de mon être ». C'est un rapport quasi charnel au pôle que vous avez.
Oui. Vous voyez, si on parle du pôle Nord, l'idée est venue quand j'étais à la face nord de l'Everest avec une équipe d'alpinistes. J'allais avoir 40 ans, puis ça faisait 12 ans que j'étais en expédition comme médecin. Je me suis dit, la prochaine, ça sera la mienne. Et c'était quoi? Et c'est venu d'une évidence que ma vie devait passer par le pôle Nord. Je ne sais pas pourquoi, mais ça correspondait à tout. De la navigation, de l'alpinisme, puis cette retraite dont j'avais envie.
C'était en 1986. Et écoutez, à l'époque, comment vous présentiez justement cette expédition?
Donc, oui, Étienne, j'ai 39 ans. Et j'ai fait des études de médecine. Et depuis 15 ans que j'ai terminé, j'ai fait toutes sortes d'expéditions. Que ce soit dans la mer, la montagne, de manière générale les régions désertiques. Et puis après disons une quinzaine d'années d'aventure avec des groupes, j'ai enfin décidé de faire ma propre aventure personnelle. Pôle Nord, ça fascine ou ça laisse indifférent. Je sais que ça en fascine beaucoup, moi-même je suis fasciné. Je crois que c'est un minimum, il faut être complètement passionné. Ça fait 2 ans que mon cerveau est pris par le pôle. J'avais toujours été en équipe et je voulais partir seul une fois faire ma propre expédition sur un projet qui m'appartenait.
Et voilà, vous partez avec votre traîneau tiré à la force des bras, des jambes. Vous serez le premier à réaliser...
Et de la tête.
Vous serez le premier à réaliser cet exploit. 63 jours, sans GPS à l'époque, sans téléphone portable évidemment. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ?
Pendant le trajet ?
Pour faire ça.
Ah, pour faire ça ! Ben vous savez, j'avais...
C'est quand même, pardon, c'est une aventure où on risque sa vie.
Oui, je l'ai risqué deux fois. Mais c'est pas pour ça que j'y allais. J'avais 12 ans d'expédition assez engagée. J'étais un super campeur parce que je connaissais les régions difficiles quand vous faites des bivouacs à 5000 mètres, à 6000 mètres d'altitude, des choses comme ça. Je savais ce que c'était. J'avais fait la course autour du monde avec Tabarly. Je savais ce que c'était que les tempêtes. Donc, c'était pas les conditions qui me rebutaient, au contraire. Et puis, il y avait cette magie du pôle qui n'avait pas été atteinte, sauf par 4 Finlandais 2 ans avant moi. Et donc, c'était mon Cap Horn, c'était mon Everest à moi, si vous voulez, quelque chose qui m'était accessible, parce que c'est pas technique, le pôle Nord. Tirer un traîneau, on a besoin de faire des stages, on vous le met à la taille, là, vous avez compris, dans la seconde.
Mais alors, si c'est pas technique, pourquoi est-ce qu'on n'y croyait pas? Parce que vous avez commencé, évidemment, par vous renseigner auprès des personnes qui connaissaient un tout petit peu la région. Vous allez voir un glaciologue de Toronto, qui doute un peu de la faisabilité de la chose. Vous rencontrez un autre homme qui s'appelle Bézal,
Jésus Dasson,
voilà, qui, lui, habite dans un petit village qui s'appelle Resolute Bay.
Tout à fait là-haut, ouais.
Le village vraiment le plus au nord du Canada. C'est par ici que vous partez, c'est de là que vous partez. Et les gens, à l'époque, ne croient pas véritablement la faisabilité de votre expédition.
On me donne 1% de chance la première fois. Et donc, on me signale qu'il y a 4 Finlandais qui ont réussi. Et puis, c'est des Finlandais, vous voyez.
Et puis, ils étaient 4.
Ils étaient 4. J'avais été les voir, ces Finlandais d'ailleurs. Et ils croyaient pas à mon truc. J'ai échoué au bout de 15 jours, j'avais appris, mon traîneau n'allait pas bien, mon sac de couchage non plus, j'y suis revenu avec de nouveaux matériels en 86. C'est la même chose, ça vous tombe dessus, il fait moins 47 quand vous sortez de l'avion, et il n'y a rien d'autre à faire que entrer dans l'action, mais tout de suite, sinon on se congèle sur place, si vous voulez, quoi. Hein. Et j'avais une envie d'abandonner tout le temps, et je sais que je suis sûr que si on avait été deux, on aurait abandonné.
Ah bon?
Oui.
C'est le fait d'être seul qui vous fait
persévérer. Oui, parce que je suis allé très loin quand même, quoi. J'ai eu moins 52 sous la tente, quoi. Et quand vous avez tout dessus, vous êtes réveillé toutes les demi-heures par le froid. Je savais d'expérience que j'allais pas mourir de froid. Parce que quand on meurt de froid, c'est au bout de la lutte, si vous voulez, quoi. On est entré dans un coma déjà, quoi. Je faisais des tables de multiplication, vous voyez, pour dire putain, où j'en suis, de ma conscience. Voilà. J'étais seul et donc je m'interrogeais comme ça. Je savais que j'entrais en hypothermie. Et parce que quand on marche, on n'a pas froid. On tire un traîneau qui est lourd, on n'a pas froid. C'est quand on s'arrête sous la tente qu'on a froid. Et donc
on est réveillé par le froid.
On est d'abord réveillé par le froid avant de mourir, oui. Et donc j'ai tenu. Les 15 premiers jours étaient redoutables, quoi. J'ai tenu et en fait petit à petit je me suis habitué à tout ça. Je me suis immergé et je suis entré dans une routine. Où chaque mouvement était réglé, c'était à l'économie, sous la tente. Et j'ai appris qu'il faut remettre le rêve à la surface tout le temps. C'est là qu'est la force du projet. Le moment où vous avez eu cette idée, vous voyez, à un moment donné, vous êtes habité par une idée. On a tous, à un moment donné, eu ce sentiment que ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. Et le pôle Nord, ça a été ça. Et donc, il faut renouer avec cette énergie originelle, quoi, celle qui, à un moment donné, vous a mobilisé pour faire ça. Il faut la réveiller. Donc, je vous dis, au début, j'avais d'énormes difficultés. Je voulais abandonner avec les honneurs. Je me disais, si tu casses une jambe, vous voyez, un truc où on revient sur un brancard, un héros, quoi. Hein, revenir et dire, je me caille, c'est beaucoup de refroid, c'est nul. Voilà. Et donc, j'ai traversé tout ça, toutes ces tentations de l'abandon qui étaient là. Les tentations de l'abandon, elles étaient physiques, elles étaient mentales. Et petit à petit, j'ai traversé tout ça. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça a été très constructif, quoi, cette expédition.
Justement, très constructif, parce qu'on se doute bien qu'une telle aventure, ça vous transforme.
Oui.
Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change, précisément?
Du livre, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Persévérer ». Et le sous-titre, c'est « On ne repousse pas ses limites, on les découvre ». On est on est capable de choses que l'on ignore de soi, vous voyez, tant qu'on n'a pas été confronté à ça. Et donc, je me suis bâti autour de ça. Avant, pendant 12 ans, j'avais monté des expéditions avant, mais en tant que médecin, j'étais recruté pour faire des expéditions himalayennes, tour du monde, on l'a évoqué. Et j'étais avec des grandes expéditions, mais j'étais un équipier, vous voyez. Là, j'étais le boss, j'avais inventé l'histoire, j'avais réuni les moyens techniques, financiers pour la faire. Je l'avais réalisée et réussie. Et donc, je me suis dit, ça va être ma vie. Au pôle Nord, c'est un moment extraordinaire, quoi. C'est une libération, vous voyez.
Vous souvenez justement du sentiment que vous avez au moment où vous arrivez au but, vous arrivez au pôle Nord?
Ah oui, on voit rien. Il y a rien au pôle Nord, il faut comprendre. Hein. Il n'y a pas un panneau au pôle Nord. Donc, parce que c'est au milieu d'un océan et la banquise dérive en permanence. Et donc, elle dérive des fois de 4, 5, 6 kilomètres par jour. Donc, vous plantez le drapeau, mais 2 ou 3 heures après, il n'est plus là. Donc, il n'y a rien au pôle Nord. J'ai eu un point, parce que j'avais une balise Argos, et par radio, on me donnait ma position toutes les 24 heures. Et donc, je savais, je connaissais la dérive de la glace, je connaissais ma vitesse, j'avais l'expérience. Vers minuit, je me suis dit, je dois y être. Puis j'ai dit, je continue encore 2 heures, histoire de ne pas louper le truc, quoi. Et à un moment donné, je me dis, là, maintenant, je peux m'arrêter. Et alors, un moment de joie, de bonheur, on est léger comme l'air, si vous voulez, vous êtes soulagé de ce projet qui me tenait à cœur. Les projets, si vous voulez, ils vous portent, mais au bout d'un moment, ils vous pèsent, quoi. Et là, je parlais au traîneau, je parlais au réchaud, j'avais envie de dire à la glace, au traîneau qui était dans mon dos, je disais, tu m'as suivi, quoi. Enfin, je trouvais des mots comme ça pour parler. Et à un moment donné, je me suis apaisé, je me suis dit, c'est génial, quoi. Je dis, ça va être ma vie, monter des expéditions polaires. Vous voyez, ça a été un tournant important de mon existence.
Alors, des expéditions polaires, vous allez en monter d'autres. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, il y a une nouvelle expédition internationale, Transantarctica, qui est montée, toujours avec à traîneau à chien. Cette fois, vous êtes accompagné. Il y a d'autres camarades avec vous. Hein, un Russe, un Américain, un Japonais, un Chinois,
un Anglais, un Britannique. Et moi. Ouais.
Mais c'est une aventure, peut-être, qui avait une ambition différente de la précédente.
Oui, le pôle Nord, c'était une aventure personnelle, c'était un challenge personnel, quoi. Sur la route du pôle Nord, par hasard, mais un hasard qui était absolument impensable, je rencontre une expédition américaine. À un moment donné, ils avaient vu mes traces, ils savaient qu'il y avait un Français qui marchait tout seul, moi je savais qu'il y avait une expédition américaine, ils étaient 6 avec des chiens. Ils trouvent mes traces, et un soir, vers 6 heures, j'étais sous ma tente et j'entends des bruits comme ça. Je me suis dit, merde, un ours. Parce que j'avais pas d'armes, j'avais rien, donc ma trouille, mais en quelques secondes, je réalise que c'est pas un ours, mais ce sont des chiens. Je sors, et là, cette expédition américaine passe devant. Le chef d'expédition vient vers moi, Will Steger, et il me dit, yo, Jean-Louis, un peu comme Stanley Livingstone. Je dis, yes, Will Steger. On s'est serré dans les bras, et il m'a dit, tu es tout seul. Il m'a dit, t'as une chance, c'est puissant tout seul. Je dis, ouais, c'est puissant tout seul. Enfin, on a évoqué des mots comme ça. Il m'a dit, suis mes traces, demain on boira un café, puis on se retrouve. Donc j'ai suivi ses traces. Il n'était pas au même fuseau horaire que moi. Donc on s'est retrouvés. Et puis on a échangé nos téléphones. Et il m'a rappelé presque un an après. Et il m'a dit, tu te souviens, on avait évoqué une expédition en Antarctique. Il m'a dit, tu viens. Donc je suis parti à Minneapolis. Et puis chez lui, dans le nord, à Ely, Minnesota. Et puis, Will a sorti la carte, ils habitaient dans une cabane, il n'y avait pas d'électricité, enfin le rêve trappeur, vous voyez, total, quoi. Et il sort la carte d'Antarctique, il met « the longest way », la plus longue traversée de l'Antarctique, et j'ai dit, et les chiens, il me dit, ils peuvent le faire. Et on est parti sur ce projet, c'était les 89-90, la fin du traité de l'Antarctique, de la première tranche. Il fallait le renouveler, il y avait des discussions, je dis, Will, il faut qu'on soit des ambassadeurs du traité. Donc il faut, ce que vous avez évoqué, ou un Chinois de Chine, il faut des pays très implantés en Antarctique, les Japonais, les Chinois, les Russes, un Américain, un Anglais, et moi. Et c'est comme ça qu'on a constitué cette équipe pour être, on était les ambassadeurs, on avait épousé ce challenge que d'être les ambassadeurs de la reconduction du traité.
Vous repartiriez seul? Ou finalement, précisément, comme peut-être vos objectifs ont changé, que le pur goût de l'aventure et de l'expédition, c'est peut-être derrière vous, et que d'une certaine manière, la question de la recherche scientifique a pris le pas?
La recherche, oui, parce qu'aujourd'hui, je suis... Si vous voulez, ce qui est formidable, c'est qu'avec l'âge, les projets changent. Vous voyez, je ne repartirai pas seul, comme vous l'évoquez, en tirant mon traîneau au pôle Nord, ça n'a aucun intérêt. Donc je suis plus devenu un inventeur, un chef d'orchestre de projet, comme pour le Polar Pod. Mais l'exécution ne va pas reposer sur moi. Il y aura des marins beaucoup plus jeunes, vous voyez. C'est, donc moi, je reste la personne qui incarne ce projet. Mais pour revenir à votre question, est-ce que je repartirai seul? J'ai besoin de solitude. Pour moi, la solitude, elle est structurante. J'en ai besoin. Et vous savez, je suis allé au Pôle Nord pas pour être seul. J'y suis allé pour être le seul. J'avais cette ambition. Mais la solitude est quelque chose dont j'ai
pour
besoin.
Pour marquer l'histoire, donc.
Pour marquer mon histoire. Parce que, vous savez, quand vous lisez la conquête des pôles, quand ils partaient, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient aucun moyen d'être secourus. Chapeau. Parce que ce sont des régions tellement inhospitalières. Moi, j'avais pas de... J'étais pas très connecté, mais enfin, on pouvait éventuellement venir me chercher. J'avais une balisa de détresse. Vous pouvez mettre un signal, ça n'a plus rien à voir.
Si, donc vous si vous tombez dans l'eau ou si vous rencontrez un ours, ça ne va pas vous servir à grand-chose, ça ne va pas vous sauver la vie.
Non, et donc j'ai failli passer à l'eau, j'y suis un peu passé, j'ai réussi à m'en sortir. Donc la solitude est structurante, et les gens qui nous écoutent, la solitude, on a de la ressource qu'on va explorer quand on est confronté à cette situation. Et j'en ai besoin de ces moments d'introspection. Je pense que les enfants en ont besoin d'apprendre à vivre avec eux, parce que ça vous a pas échappé. Moi aussi, j'en suis un peu pareil. Les gens ne sont plus là où ils sont. Ils sont sur leur prolongement exosomatique. C'est comme ça que je l'appelle, le téléphone. Et je pense que les enfants, on ferait bien de leur apprendre, jeunes, à faire de la méditation, à s'asseoir dans une salle de classe. Je dis maintenant, vous laissez tous les appareils, et puis on fait le silence. Et au début, ça va être le bordel un peu, puis petit à petit leur apprendre cette intimité avec soi. On va en avoir besoin de plus en plus.
Alors, le silence à la radio, on peut en faire un peu, mais pas trop. Jean-Louis Etienne, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes médecin, explorateur, écrivain, auteur de très nombreux ouvrages, évidemment toujours autour des pôles qui sont votre passion. On va poursuivre justement autour des pôles et regarder peut-être comment est-ce qu'on peut les protéger et ce que le droit peut pour les protéger. Vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
L'expédition française pour l'Antarctique, embarquée à bord du commandant Charcot, tente pour la troisième fois d'aborder en Terre Adélie, à proximité du pôle Sud. Ce sont les premières images de ce voyage que présentent aujourd'hui les actualités françaises. La Terre Adélie est une parcelle de l'immense pâte glacée qui constitue le continent antarctique et où la souveraineté française fut établie en 1840 par Dumont-Durville. C'est sur cette étendue pratiquement inexplorée que les membres des expéditions polaires françaises ont décidé d'installer leur station de recherche scientifique. Immédiatement, relevé topographique aérien, prospection du sol et recherche météorologique sont entreprises. Déjà la vie s'organise et on enregistre les premières naissances. Dans la solitude blanche et glacée, 11 hommes, 11 Français travaillent.
Voilà, une très belle archive des actualités nationales. 1950, la base de Port-Martin est créée en Terre Adélie par l'équipage du commandant Charcot. C'est un succès d'explorateur, une aventure qui permet le développement d'un programme scientifique international. Et c'est aussi évidemment un moyen pour la France d'affirmer sa puissance sur le territoire. Quelques années plus tard, il y a exactement 60 ans, 1959, était signé le traité de l'Antarctique à Washington. Il entre en vigueur 2 ans plus tard, le 23 juin 1961. C'est il y a quasiment jour pour jour 58 ans. À l'époque, l'objectif principal du traité, c'est d'assurer que l'Antarctique restera un territoire employé exclusivement à des fins pacifiques et scientifiques. Sauf que depuis, il y a une nouvelle espèce qui a fait son apparition. Pas seulement les scientifiques, pas seulement les aventuriers, les explorateurs, mais aussi les touristes. Bonjour Anne Choquet.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Anne Choquet. Vous êtes juriste, une spécialiste du droit de l'Antarctique et aussi une spécialiste et une amoureuse des pôles. D'abord, la première question, Anne Choquet, essayons de regarder un petit peu ce qui se passe et la réalité de ce phénomène du tourisme polaire et particulièrement en Antarctique. Et surtout, on va regarder si vous pensez, vous, Anne Choquet, qu'il faut aller vers un durcissement de la réglementation pour peut-être limiter ce phénomène qui augmente un peu dangereusement, Anne Choquet.
Sur le tourisme, effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de touristes qui vont en Antarctique. Alors, on peut dire que le chiffre est, on peut dire, réduit. 56 000 personnes environ pour 2018-2019. Le problème, c'est que la plupart des touristes vont dans la même région, donc sur la péninsule antarctique. Et on remarque surtout qu'il y a régulièrement une augmentation du nombre de touristes, avec donc les risques associés, donc les risques liés à la sécurité humaine et bien sûr la protection de l'environnement. Et ce que l'on remarque également, c'est que du côté des touristes, non seulement ils sont plus nombreux, mais il y a également une diversité des activités. Donc il n'y a plus uniquement les croisières, mais on voit également des personnes qui veulent aller en Antarctique pour faire du kayak, pour faire de l'escalade par exemple.
Alors, est-ce qu'on peut regarder peut-être, Anne Choquet, ce que dit le droit en la matière? Il y a ce traité de l'Antarctique que j'évoquais tout à l'heure de 1959, et puis ensuite, il va être renforcé par un nouveau texte qui s'appelle le protocole de Madrid, qui est signé en 91 et qui rentrera en vigueur quelques années plus tard, en 1998. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que prévoyait le traité de 1959, ce que va changer aussi le protocole de Madrid, et s'il vous semble aujourd'hui de nature à bien protéger les pôles, en tout cas pour ce qui est de la théorie?
Alors, même en pratique, on pourrait dire. En 1959, le traité sur l'Antarctique a eu pour effet donc de faire de l'Antarctique un continent donc orienté pour les activités scientifiques. Mmh. Le traité sur l'Antarctique impose aux États donc des activités uniquement pacifiques. Donc, c'est-à-dire, on a la non-militarisation, la non-nucléarisation de l'Antarctique. Mais, donc, en 1959, bien sûr, on ne s'intéressait pas au tourisme, on n'imaginait même pas de pouvoir réglementer le tourisme. Et c'est en 1991, avec le protocole donc relatif à la protection de l'environnement en Antarctique, donc c'est un protocole au traité de 1959, donc on a voulu renforcer le traité de 1959 en matière environnementale. Et là, donc, le protocole de Madrid, donc de 1991, va faire de l'Antarctique une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Alors, ça ne veut pas dire que l'Antarctique est devenue réservée aux seules activités scientifiques. Mmh. Néanmoins, le protocole nous dit qu'on doit accorder une priorité aux activités scientifiques.
Est-ce qu'il faut aller plus loin, Anne Choquet? Vous nous dites aujourd'hui à peu près 50 000 touristes, mais quand on regarde un petit peu les études, on nous dit que très très rapidement, d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, ça pourrait doubler. Par ailleurs, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques sur les écosystèmes. Est-ce qu'il faut apporter des évolutions dans ce droit de l'Antarctique? Est-ce que vous pensez qu'il faut, je sais pas, limiter le nombre de touristes? Est-ce qu'il faut les empêcher de débarquer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Anne Choquet?
Alors, on a déjà des mesures qui existent. Donc, lorsqu'on envisage une activité en Antarctique, quelle que soit la nature de cette activité, et donc pour les touristes, on doit faire une évaluation d'impact sur l'environnement. On ne peut pas envisager une activité sans cette évaluation d'impact sur l'environnement. De la même manière, il y a des zones en Antarctique qui sont réservées aux seules activités scientifiques. On ne peut envisager d'aller dans ces zones-là que si on a un permis donc permettant à la personne d'avoir des activités scientifiques. Mmh. Alors, ça, ce sont des principes qu'on avait déjà dans le protocole de Madrid. Et petit à petit, les États renforcent ce protocole au fur et à mesure des difficultés. Donc, effectivement, on a pu prendre des décisions de limitation donc des touristes. Alors, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a un navire qui a à bord plus de 500 passagers, il leur est interdit de débarquer. Pour les navires qui sont donc qui ont à bord de navires moins de 500 passagers, alors ils pourront débarquer. Il faut faire attention parce qu'on ne pourra pas débarquer de n'importe quelle manière. Il faudra un navire au maximum sur le même site et on aura au maximum 100 passagers. Donc, petit à petit, on a des nouvelles réglementations. Alors, par exemple, on a des plans d'urgence qui sont exigés maintenant. On a des obligations d'assurance également. Mais c'est véritablement une politique qu'on appelle de petits pas. Les États vont prendre des mesures au fur et à mesure des difficultés. Mais aussi, il faut bien se rendre compte que ces mesures-là ne sont pas toujours faciles à prendre parce que les décisions au sein du traité, au sein du système du traité sur l'Antarctique, doivent être prises au consensus. Donc actuellement, on a 54 États partis au traité, donc avec la Slovénie qui vient d'entrer là, donc en mars-avril 2019, cette année, mais on a 29 États qui ont un droit de vote. Mmh. Et quand on veut prendre une nouvelle décision, il faut que ces 29 États soient d'accord.
Donc évidemment, ça rend la chose très compliquée. Je voudrais faire réagir peut-être Jean-Louis Etienne. C'est une question qui est importante, cette question de la régulation. Évidemment, ce sont des écosystèmes extrêmement fragiles, donc il s'agit de les protéger au mieux. Mais en même temps, on peut comprendre que des gens aient envie aussi de répondre à leurs propres envies, à l'attraction des pôles, telle que vous l'avez fait vous il y a quelques années. Alors comment est-ce qu'on fait entre régulation
et... montrer des belles images et de dire surtout n'y allez pas. Ce que Diane choquait, c'est que le tourisme, c'est un des tourismes les plus réglementés au monde. Les bateaux doivent déposer longtemps en avance leur parcours, de manière déjà à ce qu'il n'y ait pas deux ou trois bateaux dans la même baie. Donc c'est organisé. Moi, j'étais au comité de l'environnement polaire, donc il y a des évaluations qui sont faites. Et j'accompagne aussi de temps en temps des voyages touristiques. Et donc ce sont des scientifiques qu'ils connaissent bien. En général, ce sont des gens qui sont ornithologues ou naturalistes, vous voyez, qui amènent les touristes par petits groupes. Ce sont des zodiacs de 10-12 personnes qui débarquent. Donc, il y a un encadrement qui est vraiment bien fait. C'est certainement un tourisme qui est le plus encadré.
Donc, on n'a pas besoin de faire évoluer la législation, parce que, effectivement, c'est bien encadré, mais il y a quand même des dérives. Regardez, il y a quelques mois, il y avait un jeune navigateur breton qui a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde avec une poule. Je ne sais pas si vous aviez vu cette affaire-là.
Oui, oui.
Et il se trouve qu'il avait emmené précisément sa poule en Antarctique.
C'est
il
interdit.
Avait fait débarquer tout ça. Et que ça n'avait pas du tout fait rire les scientifiques. Donc, effectivement, c'est très réglementé. Il n'empêche qu'il y a des problèmes, il y a des dérives.
Oui, quand vous montez à bord, par exemple, ou que vous descendez du bateau pour aller voir une roquerie, vous avez des bottes, vous passez des pédiluves, c'est-à-dire on vous nettoie les bottes, vous voyez.
Là la poule n'était pas passée par la casse pédiluve.
On vous donne les vêtements qui sont ceux du bateau, vous ne pouvez pas arriver avec votre parka, vous avez fait une randonnée la veille dans les bois et vous avez quelques graines dans le... Vous voyez, c'est extrêmement surveillé.
Anne Choquet, vous vouliez réagir, je vous en prie.
Oui, alors effectivement c'est très, très surveillé, mais ce que l'on voit c'est que finalement, les navires, alors moyen, gros navires, ces navires-là, on arrive à les suivre. La grande difficulté, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent à l'aventure, qui se disent, ben voilà, j'ai l'Antarctique, c'est un espace de liberté. Souvent, je discute avec des personnes qui sont surprises de m'entendre dire, ah ouais, mais non, il faut faire attention, il y a des autorisations à avoir. Et on a des personnes qui se disent, bah, tiens, je vais faire un tour du monde et l'Antarctique sera une de mes destinations. Je vais m'arrêter là quelques jours, je vais continuer. Et elle ne se préoccupe pas du cadre juridique. Le cadre juridique existe. Les tours opérateurs principaux respectent la réglementation, font un effort parce que les tours opérateurs savent très bien que si cet effort-là n'est pas fait, le risque, c'est de se voir interdit d'activité dans la région.
Oui, ils ont évidemment intérêt à prendre des initiatives aussi. C'est dans leur intérêt.
Bien sûr. Oui. Voilà. Mais après, quand on a des personnes qui se décident de faire le tour du monde, ben là, on a du mal. Et il y a également une méconnaissance. On peut se dire aussi, oh, j'ai peu de chances de me voir contrôler, par exemple.
Merci beaucoup, Anne Choquet, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes juriste, une spécialiste du droit de l'Antarctique, mais aussi une amoureuse des pôles, tout comme Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, il reste des contrées dans le monde que vous n'avez pas encore explorées, qui vous font rêver?
Il y en a plein.
Plein?
Ah ben oui. Ben oui, moi j'ai pas fait grand-chose. Si vous voulez, j'en ai fait, bien sûr. Mais vous savez, en avançant un âge, je me rends compte qu'on est... On est beaucoup plus... On perçoit les choses avec plus d'acuité. Vous voyez, je donne toujours cet exemple. Quand je suis rentré du pôle Nord, pendant 3 mois, je n'ai pas vu de verre. Quand vous êtes sur la glace, même à Resolute Bay, il n'y a pas une herbe, c'est sous la glace. Et donc, je suis revenu à Montréal. J'ai passé une nuit là. Et le matin, j'ai ouvert la fenêtre de l'hôtel. Oh, des arbres! Je voyais du verre pour la première fois. Puis je suis rentré dans le Tarn chez moi. Et c'était la forêt vierge. Vous voyez ce que je veux dire? Le décor de l'existence, dans la nature, ça se banalise un petit peu. Donc on apprend à regarder les choses. Et maintenant, sur des contrées géographiques lointaines, je chercherais plutôt des zones où je serais tranquille, quoi. Que des zones à gros potentiel touristique. Je suis un sauvage, un peu.
Le prochain voyage, vous partez où et quand?
Ah, le prochain, ça sera Polar Pod, je pense.
Et vous allez repartir avant?
Oui, avant je vais repartir, je vais faire un tour en Alaska là, pendant 2 semaines. Et mais ce sont des voyages très encadrés, si vous voulez, quoi. Mais voyez, je voulais refaire un voyage, je voulais refaire cette solitude polaire. J'y suis allé il y a 3 ans pour une randonnée d'une semaine. J'étais parti seul et puis on m'avait dit il risquait d'avoir des ours. Et je me suis retrouvé sous la tente, seul un soir. Et ça commençait à gratter. Merde, j'ai dit un ours, quoi. J'ai pris peur. Donc j'avais un Remington, une espèce de pétard énorme. Et j'ai armé. Et puis j'ai regardé dehors. Non, c'était rien, c'était le vent qui bougeait. Et là, je me suis dit, j'arrête. J'arrête parce que terminer ma vie polaire par tuer un ours, parce que c'était la période en avril où il y a les petits qui sortent, ouais, je veux dire, peut-être il m'aurait menacé parce la femelle voulait protéger ses petits. J'ai eu cette image tout d'un coup horrible d'un ours que je venais de tuer et les petits qui étaient là. Et là, je me suis dit,
stop.
Voilà, donc les régions polaires, je les rêve.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des hommes, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur.
Le secret des banquises d'Alain Bachoum pour se quitter. Un grand merci Jean-Louis Etienne d'avoir été avec nous ce matin.
Ben merci de m'avoir permis d'en parler si longuement.
D'avoir ouvert cette série autour du tourisme, l'heure de la démesure, on reprendra demain. Faut-il rappeler quelques ouvrages à vous? Je vais en rappeler 2, il y en a beaucoup, beaucoup, mais le dernier en date, Oser l'autonomie, qui est paru aux éditions Rustica, et aussi un autre que j'ai relu pour vous accueillir, Le pôle intérieur, mener sa vie comme une aventure, c'était chez Ebec. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin.
Avec plaisir.
Je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des loups, des idées, des rêves, des douceurs éveillées.
11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Bien des études, Brice, des études savantes, doivent correspondre à des interrogations personnelles.
Oui, mais la pudeur interdit généralement d'en faire état. Et c'est pourquoi on lit rarement dans les revues intellectuelles des articles de fond qui mêlent inquiétudes existentielles et réflexions de fond. Et bien c'est pourtant le cas de l'étude que publie Arthur Brooks dans The Atlantic Monthly de juillet. Son titre, Your professional decline is coming much sooner than you think. Votre professionnel déclin arrive beaucoup plus tôt que vous le penser. Et il s'ouvre par une anecdote qui lui aurait servi de déclencheur. Un soir, dans un avion, il entendit cet échange de propos entre les deux membres d'un vieux couple derrière lui. Elle. Mais ce n'est pas vrai que plus personne n'a besoin de toi. Lui, j'aimerais mieux être mort. Après l'atterrissage, il découvrit que le vieil homme était, je cite, mondialement célèbre, admiré de tous pour ses prouesses, son héroïsme et ses succès. La scène remonte à l'été 2015 et Arthur Brooks avait alors 51 ans. Il était au pic d'une brillante carrière. Ses livres étaient des best-sellers. Il dirigeait l'un des plus fameux think tanks américains, The American Enterprise Institute. Mais le désespoir du vieil homme, accablé par le sentiment de sa propre inutilité, provoqua en lui un choc si profond qu'il a donné à sa vie un tournant dont l'aboutissement est aujourd'hui sa démission de l'American Enterprise. Durant les 4 années écoulées, Brooks a enquêté sur le vieillissement et la diminution des facultés. Et cette démission, c'est la conclusion de son enquête. Première conclusion, l'âge heureux n'est pas celui qu'on croit. D'après plusieurs enquêtes, la courbe du bonheur décline après 30 ans, demeure basse à la quarantaine, mais bondit après 50 ans. Par contre, autour de 70 ans, contre-coup de la retraite, de nombreux hommes surtout, plongent dans la dépression. Leur taux de suicide est important après 75 ans, d'où la quête de Brooks, comment demeurer heureux alors qu'on prend conscience du déclin de ses facultés. Deuxième observation. Avoir réussi de grandes choses dans sa carrière, non seulement ne prémunit pas contre la dépression du retraité, mais au contraire, risque fort de l'aggraver. Et l'exemple le plus fameux, c'est celui des grands sportifs. Leur apogée se situe dans leur jeunesse, poursuivre ensuite une vie normale, sans surentraînement ni défi à relever, provoque souvent dépression, addiction, suicide. Plus on a gravi d'échelons dans sa carrière, et plus il est difficile d'accepter de retomber dans l'anonymat. Arthur Brooks en a tiré une loi. Il l'appelle le principe de gravitation psychoprofessionnelle. Elle s'énonce ainsi, plus vous vous serez investi dans une carrière et plus vous allez souffrir lorsque vous ne serez plus de taille à la poursuivre. Ce déclin, inévitable comme la mort elle-même, on préfère ne pas y penser et pourtant, il faudrait s'y préparer.
Bon alors Brice, maintenant vous allez m'inquiéter, ce déclin, à quel âge commence-t-il ?
La réponse c'est plutôt à quel âge est-on le plus performant ? D'après les psychologues qui ont travaillé sur ce sujet, on ne cesse de progresser dans une carrière au cours des 20 premières années après l'avoir épousée. Cela veut dire qu'après commence le déclin. Si vous avez commencé ainsi votre carrière actuelle à 25 ans, vous serez au top à 45. Et puis de moins en moins performant par la suite. Évidemment, tout dépend du job, vous me direz. Les créateurs d'entreprises qui sont devenus très riches, d'après les statistiques, ont généralement lancé leur boîte entre 20 et 34 ans. Oui, il faut être très jeune pour avoir des idées vraiment révolutionnaires. Par contre, on est rarement un grand historien avant d'avoir atteint la cinquantaine. L'âge nécessaire pour avoir emmagasiné une énorme quantité d'informations et surtout les avoir assimilées correctement. En tant que directeur du think tank, Arthur Brooks a observé que les chercheurs aux idées les plus novatrices avaient la trentaine ou le début de la quarantaine, mais que les personnes ayant atteint la soixantaine étaient les meilleures lorsqu'il s'agit de synthétiser et de rendre accessibles des idées compliquées. Ayant observé qu'il n'existe pas de manuel expliquant aux gens comment gérer leur propre déclin, Brooks s'est adressé à un sage hindou. Tout le malheur des Occidentaux, lui a enseigné celui-ci, provient de ce qu'ils ignorent que la vie humaine est scandée par 4 phases. Et eux, ils s'attardent dans la deuxième, celle durant laquelle on se réalise sur le plan professionnel en tâchant d'accumuler des richesses. Des riches, déjà très riches, en Occident, croient ainsi conjurer la mort en continuant à accumuler au lieu de se préparer au grand saut. Les hindous nomment Vanaprastha le troisième, dont le sens littéral est « se retirer dans la forêt ». Les vieux hindous ayant atteint cet âge quittent leur famille et vont méditer dans le dénuement afin d'atteindre l'ultime sagesse. Conclusion de Brooks, oubliez de penser votre vie sur le mode du curriculum vitae, pensez-la plutôt comme l'éloge funèbre que vous aimeriez qu'on prononce le jour de votre enterrement.
Merci beaucoup Brice Couturier, donc voilà une bonne nouvelle, j'ai encore quelques années avant d'être au top et ensuite ce sera la retraite dans la forêt. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gesbert et la Grande Table.